Je crois qu'on peut commencer. On peut commencer avec quelques minutes de retard, mais je vous remercie beaucoup d'être parmi nous ce soir. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde avec ce soleil. Merci à vous. Merci d'être venu pour ce débat sur les objets antiques, c'est quoi ce commerce ? Débat qui a été initié par le professeur Jean-Jacques Aubert, qui n'a pas pu être là parmi nous ce soir, et organisé par le responsable des cafés scientifiques, monsieur Igor Chlebny, qui est ici parmi nous ce soir. Bienvenue à nos trois invités qui vont se présenter très très vite. Je vous présente la thématique. Donc nous allons essayer de parler de trois choses principales ce soir, parce que la thématique est assez vaste. Donc vous avez certainement suivi l'actualité, les pillages qui sont massifs et réalisés depuis plusieurs années maintenant en Syrie et en Irak remettent sur le devant de la scène le trafic de biens culturels. Nous l'évoquerons tout à l'heure. Mais en fait, il existe depuis des décennies, ce trafic de biens d'antiquité. Hein. Un personnage a marqué ce problème, c'est André Malraux, en 1923, lorsque lui-même a volé des objets au Cambodge et s'est fait prendre la main dans le sac, ce qui ne l'a pas empêché de devenir par la suite ministre de la Culture en France sous De Gaulle. Alors depuis 1970, la prise de conscience est plus forte. Une convention de l'UNESCO impose aux États de restituer des objets culturels pillés. Elle a largement été ratifiée à travers le monde. En Suisse, la loi fédérale sur le trafic international des biens culturels, la LTBC, existe depuis 11 ans. Seulement, diront certains, c'est une des critiques qu'on peut entendre. Donc nous verrons ses effets et ses limites aussi. Cela représente un défi pour les musées suisses. Et nous verrons comment ils doivent relever ces défis. C'est un défi aussi pour les marchands et pour les collectionneurs. Il s'agira aussi de voir si la Suisse joue un rôle toujours important dans le trafic des biens culturels. Ça a été le cas, en tout cas par le passé, avec deux cas assez retentissants, l'affaire Medici et une autre affaire baloise. Et donc nous essaierons de voir aussi comment faire pour améliorer ce combat contre le trafic des biens culturels. Alors, je vais vous inviter maintenant à vous présenter chacun d'entre vous. Peut-être on peut commencer par Audrey Doyen.
Bonjour à tous. Alors, Audrey Doyen, doctorante à l'Université de Neuchâtel et à la Sorbonne Nouvelle, donc en ethnologie et en muséologie. Je travaille sur les relations entre le marché de l'art et les musées, plus particulièrement dans le champ de l'art africain et océanien, mais je vais quand même essayer de parler un petit peu des objets antiques.
Karine Simoès.
Bonsoir, Karine Simoès. Donc je travaille depuis bientôt 4 ans à l'Office fédéral de la culture dans un service spécialisé en transfert international des biens culturels, qui est donc, de par son nom, en charge de la mise en application de la loi sur le transfert international des biens culturels. Et de formation, je suis juriste, et puis j'ai fait aussi des compléments d'études en archéologie et en histoire de l'art.
Et oui, bien sûr, Marc-Antoine Kayser, que vous connaissez, je pense.
Ouais, je sais pas. Bah, bonsoir. Je suis archéologue, professeur associé ici à l'Université de Neuchâtel et directeur du Athénium. Et j'oserais dire que, en tant que directeur du Athénium, je suis absolument pas concerné. Enfin, j'espère ne pas être concerné directement, du moins, mais indirectement, bien sûr, par toutes les questions qui vont nous occuper ce soir.
Magnifique. Alors, on peut commencer peut-être avec vous, Audrey Doyen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'ampleur aujourd'hui des pillages d'antiquités à travers le monde, et puis peut-être plus spécifiquement en Syrie et en Irak, et quel est le circuit de ces biens pillés en fait. Comment ils arrivent, comment ils partent de ces lieux, comment ils arrivent jusqu'en Europe ou enfin jusqu'au destinataire final.
Alors, on dit en général que le trafic des objets culturels, c'est le troisième plus grand trafic illicite, hein, après la drogue et les armes. En réalité, il est difficile d'avoir des chiffres, mais peut-être que ma collègue, si Madame Simoes me contredira, mais il est difficile d'avoir des chiffres, parce qu'en fait, pour avoir des chiffres, il faut faire des statistiques, et pour faire des statistiques, il faut des catégories. Et donc la première catégorie qui pose problème, c'est le terme d'objet culturel, hein, puisque en fait il faut vraiment définir ce que c'est qu'un objet culturel. Et rien que dans les deux conventions internationales qui ont été mises en place, la définition n'est pas la même. Donc vous parliez de la convention de l'UNESCO, et il y a une autre convention qui n'a pas été largement ratifiée, mais qui est celle du Nidroit, que je pense qu'on va l'évoquer plus tard. Donc ces deux conventions définissent de façon différente l'objet culturel. Donc voilà, on est déjà dans des problèmes de catégorie qui rendent difficile le fait de faire des statistiques. Et en fait, ce marché possède des caractéristiques par rapport au marché de la drogue ou des armes. Tout d'abord, c'est que l'objet culturel n'est pas considéré comme dangereux, contrairement à la drogue ou aux armes. Quoique on a peut-être jamais essayé d'assommer quelqu'un avec un vase grec, je ne sais pas. Mais donc, ce n'est pas considéré comme dangereux. C'est difficile en fait de fixer la valeur de ces objets, et c'est difficile de les définir, comme j'ai dit. Mais après, en ce qui concerne la structure, en fait, c'est aussi un marché qui est extrêmement, enfin un trafic qui est extrêmement protéiforme, contrairement par exemple à la drogue ou aux armes, puisque en fait, on a dans les acteurs de ce trafic, on passe du touriste innocent ou un peu opportuniste au crime organisé. Donc en fait, c'est vraiment une diversité d'acteurs. Et c'est vraiment difficile en fait de décrire ou de définir ce marché. Après, schématiquement, on peut dire qu'il y a trois étages. Il y a le premier étage sur le terrain, si on veut, où là on a les gens qui vont fouiller de façon illicite, ou des faussaires, ou des voleurs. Donc c'est un peu les trois catégories de gens qu'on trouve sur le terrain. Après, on a un deuxième étage avec des intermédiaires. Et là, c'est l'étage du transit de l'objet, donc avec les intermédiaires, les marchands, et un troisième étage avec les acquéreurs, qui sont les institutions, les collectionneurs ou les scientifiques.
Et on estime que parfois ça prend des années hein, pour blanchir une œuvre, on appelle ça comme ça. Comment ça se passe en fait pour blanchir une œuvre ?
Alors, assez rapidement, le blanchiment de l'œuvre, il intervient la plupart du temps au deuxième étage, hein, donc au moment du transit, par les intermédiaires ou les marchands. Et pour blanchir une œuvre, il y a plusieurs façons de faire, mais disons que l'idée principale reste de lui changer son pédigré. Donc de changer, ou en tout cas de blanchir sa provenance ou sa datation, puisque ce sont deux choses qui font que l'œuvre va se retrouver de façon illicite sur le marché.
D'accord. Karine Simoes, ces pillages massifs qu'on a vus à la télévision, en fait, concernant la Syrie et l'Irak, dans le contexte du conflit actuel, est-ce qu'ils ont une conséquence ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, on voit des œuvres, des objets qui arrivent sur le marché ? Est-ce qu'on a repéré des objets issus de ces pillages aujourd'hui en Europe ou en Suisse ?
Alors, je ne vais pas me prononcer pour l'Europe, mais peut-être plus particulièrement pour la Suisse, vu que c'est des choses qu'on traite de manière plus directe. Alors, la lutte contre le trafic illicite, c'est une lutte globale, pas seulement par rapport à l'actualité immédiate, donc les biens syriens et irakiens, même si en fait l'accent est mis là-dessus aussi au niveau de la régulation, donc de la législation. J'y reviendrai après, enfin brièvement, parce que pour ces deux pays, on a deux ordonnances spéciales, et c'est enfin, relativement nouveau et important pour la protection de ces biens-là. Maintenant, justement, le temps que ça prend pour, entre guillemets, blanchir la provenance et puis refaire un pédigré à un objet archéologique, a pour conséquence qu'on ne retrouve pas forcément immédiatement les objets sur le marché. Les marchands sont peut-être parfois peu scrupuleux, mais quand même pas fous. Donc voilà, ça peut prendre un certain nombre d'années. Et puis le combat qu'on mène aujourd'hui, quand bien même peut-être le conflit en Irak ou en Syrie, on l'espère, prendrait fin, cette lutte contre le trafic illicite continuerait d'avoir lieu. Voilà, maintenant, pour ce qui est des cas qu'on a, enfin, desquels on a eu connaissance ou on a pu, disons, qu'on a pu traiter, ça touche pour l'instant pas particulièrement des biens syriens ou irakiens. Il y en a en Suisse, c'est sûr. Il y a beaucoup de biens qui proviennent de ces pays qui sont entreposés depuis de longues années, donc qui ne sont pas forcément en lien directement avec l'arrivée du conflit et puis tout ce qui a été médiatisé ces dernières années. Et puis la législation maintenant, comme vous l'aviez dit, la loi sur le transfert international des biens culturels qui est en vigueur depuis maintenant 11 ans, elle permet un contrôle aux frontières, entrée et sortie des biens culturels, et on fait des profils de risque, et puis tout ce qui est syrien et irakien est particulièrement contrôlé et bloqué s'il faut en douane, et on n'a pas tellement plus de cas aujourd'hui qu'il y en a eu.
Donc actuellement, on n'a pas décelé de cas récents d'objets pillés en Syrie et en Irak.
Oui, on n'a pas de cas de ce type. Mais on a des cas qui pourraient concerner des biens syriens et irakiens.
Mais voilà.
De par la documentation et les informations qu'on a, ce sont des choses qui sont entrées en Suisse il y a plus longtemps, entre guillemets, que la législation actuelle.
Voilà. Mais il faut être vigilant pour les prochains mois et surtout les prochaines années, en fait.
Et ça ne veut pas dire que ce ne soit pas illicite, disons. Enfin, dans le sens qu'ils auraient pu être exportés illicitement du pays, quand bien même ne font pas partie des fouilles actuelles qui sont...
Voilà.
Voilà, gigantesque.
Alors, peut-être Marc-Antoine Kayser, vous qui représentez les musées, est-ce que vous avez déjà eu des personnes qui ont frappé à votre porte pour vous dire, bah, écoutez, voilà, j'ai des pièces à vous vendre. Est-ce que vous avez déjà eu des propositions malhonnêtes de ce genre-là? Est-ce que ça arrive?
Oui, ça arrive. Bon, c'est un fait que les gens pensent peut-être pas d'abord tellement au l'Athénium, dont la mission touche essentiellement l'archéologie régionale, hein, l'archéologie neuchâteloise ou des environs, a priori. Mais c'est des cas qui arrivent. Alors, pour prendre un exemple qui n'est hélas pas vraiment humoristique, il y a quelqu'un, on me l'a dit, qui est arrivé à la réception du musée, qui est arrivé puis qui a dit « Bonjour, je suis pilleur de tombes », ce qui est une introduction tout à fait sympathique. En fait, il s'agissait de quelqu'un qui avait une collection et qui voulait s'en débarrasser. Donc, il ne cherchait pas à les vendre. Il devait savoir que, de toute manière, on n'a pas de budget d'acquisition. L'État de Neuchâtel ne nous en donne pas et on ne l'en demande pas non plus. Mais disons qu'il voulait s'en débarrasser. Et donc, à la réception, on lui a dit « Mais non, ça ne nous intéresse pas. » Il a dit « Bon, alors, puis c'est comme ça, je vais tout foutre au lac. » Évidemment, tout de suite, ça pose certaines questions de principe. Alors, ce qu'on a fait, c'est que, je ne dirais pas ce qu'on lui a dit précisément, mais on lui a dit de s'adresser, par exemple, à tel autre musée, quelque part en Suisse, quoi.
Vous avez refilé le bébé, en fait.
C'est des choses qui arrivent. On a reçu aussi une fois un paquet, et c'est plutôt les scrupules, c'est-à-dire qu'on a reçu un paquet avec deux antiquités que je qualifierais de mineures, enfin de relativement importantes, pas des choses exceptionnelles. Sans adresse d'expéditeur, rien du tout, emballé dans du papier journal, dans un carton, par la poste. Donc le postier arrive, il vous donne un paquet, vous l'ouvrez, et vous tombez sur des céramiques, et vous n'en savez rien de plus, quoi. Voilà, donc ça arrive, oui.
D'accord, et dans ce cas-là, est-ce qu'on appelle l'Office fédéral de la culture pour alerter, pour dire attention, l'Office fédéral de la culture qui est là pour veiller à ce que la LTBC soit appliquée?
Disons qu'on est dans une situation un petit peu délicate, parce que, et c'est toute l'ambiguïté de la situation, c'est-à-dire que nous, on n'a pas vocation à faire les flics. Et disons, on peut difficilement dire au type, bon, donnez-nous vos papiers d'identité. Enfin, ce n'est pas exactement le rôle des employés de la réception du Laténium. Quant aux objets qui sont arrivés, disons que je les ai confiés à quelqu'un qui connaissait ce type de matériaux, qui n'est donc évidemment pas notre spécialité. On a pu en conclure que ce n'étaient pas des objets qui étaient identifiés, par exemple sur la liste rouge. De nouveau, c'est des choses relativement mineures. J'en ai traité dans un séminaire avec des étudiants pour réfléchir comment on pourrait une fois mettre ça en valeur pour traiter justement la question de la banalité du pillage archéologique. Parce que là, on est vraiment face à ces cas de pillage qui ont l'air de rien, mais qui finalement, selon certains indices, représentent quand même une réalité assez répandue dans le monde.
Alors peut-être, Karine Simoes, la Suisse joue quel rôle aujourd'hui dans le trafic des antiquités? Il y a des procédures qui sont ouvertes chaque année. Est-ce qu'aujourd'hui, comparé à il y a quelques années en arrière, la Suisse est plus propre?
Alors oui, la Suisse a été longtemps montrée du doigt comme un peu le mauvais élève en matière de marché noir des antiquités, malheureusement. Quand bien même elle a tout un réseau culturel beau, varié et très riche. Voilà, alors heureusement, elle fait les choses tardivement, mais en général, elle fait les choses bien. Donc effectivement, la convention de l'UNESCO de 1970 qui vise à interdire le trafic illicite des biens culturels a finalement été ratifiée par la Suisse en 2003. Suite à cela, donc c'est dans le jargon juridique une convention qui n'est pas directement applicable par les tribunaux suisses et donc nécessite une mise en vigueur nationale. Et donc c'est pour ça qu'il existe la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels qui est en fait une reprise, si on veut, de cette convention, mais en termes légaux, nationaux, et qui peut être appliquée par les tribunaux et qui l'est heureusement aujourd'hui. Et donc depuis 11 ans, s'est mis en place un système de contrôle plus ou moins accru et auprès des marchands d'art et aux frontières, puisque c'est là aussi où ce sont des zones sensibles et où finalement la marchandise qui entre doit être écoulée ou exposée ou transférée quelque part à un moment donné. Donc toute cette sensibilisation qui a été faite autour de ça et puis les différents contrôles qui ont été menés et puis qui parfois aboutissent à une dénonciation auprès des ministères cantonaux, puisque en Suisse, chaque canton est souverain au niveau juridique et au niveau de, enfin, disons, à ses tribunaux pénaux. Voilà, on arrive à un changement dans les comportements, aussi au niveau des marchands qui parfois nous contactent pour savoir comment faire. Ils ont une difficulté par rapport à un objet problématique avec une provenance qu'ils n'arrivent pas forcément à déterminer ou de la documentation qu'ils n'arrivent pas à avoir. Donc, une prise de conscience qu'aujourd'hui, on ne peut plus transférer n'importe quel bien culturel n'importe comment, qu'il y a une loi qui est en vigueur qui, pour la première fois, pénalise tout transfert de biens qui aurait pu être volé ou pillé. Et donc, si on veut agir avec toute la diligence requise, on se doit de faire un minimum de recherche, selon tout ce qu'on peut imaginer comme bonne foi, pour arriver à la conclusion que le bien ne fait pas partie de ces réseaux illicites et qu'on peut le transférer en toute bonne foi.
Alors, le nombre de procédures a augmenté, je crois, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ça veut dire qu'on surveille mieux.
Oui. Voilà.
Mais c'est des cas anciens d'objets antiques retrouvés, enfin qui sont sur le sol suisse, des objets antiques pillés par exemple ou volés, qui sont sur le sol suisse depuis de nombreuses années et qui ressortent un petit peu de la vase, hein, du fond, si on peut dire, ou alors ce sont des objets beaucoup plus récents, illicites, mais rentrés dans le pays récemment et qui sont découverts récemment.
Alors évidemment, il y a un peu tout type de cas, et puis il y a aussi des cas qui ne sont pas forcément transmis ou gérés par l'Office fédéral de la culture, dans la mesure où les cantons sont aussi compétents pour faire des investigations policières et puis pour mener une procédure autour d'un bien culturel. Pour ce qui est des procédures auxquelles nous on a eu à faire, alors il faut faire une différence entre ce qui est contrôlé en douane. Aujourd'hui,
voilà, parce qu'il y a des contrôles effectués. En fait, vos gendarmes sont les douaniers.
Principalement. Ouais.
Et vous-même. Hein, donc les douanes sont censées contrôler les marchandises qui entrent dans le pays par la frontière normale ou dans les ports francs. Oui. Et puis vous-même, l'Office fédéral de la culture, vous contrôlez également, si je me souviens bien, 10% des marchands. Vous êtes... Voilà, vous mettez le focus sur les marchands.
Absolument.
10%, ça, c'est peu, hein, ça peut être...
C'est peu, mais
c'est peu.
Ça lance déjà un signal fort, c'est ça aussi qu'il faut dire. N'importe quel marchand pourrait être soumis à un contrôle n'importe quand, donc il se doit pour chaque bien qu'il entend transférer, donc si on parle de vente aux enchères, c'est pour tous les biens, notamment archéologiques. Nos contrôles se focalisent sur les biens à risque, qui sont principalement les biens archéologiques. Et donc, de par la loi, doit tenir un registre des acquisitions et des ventes, avec un certain nombre d'informations que la loi requiert. Donc, en général, le nom, l'identité complète du fournisseur ou du vendeur du bien, la provenance, en fait, entre guillemets, tout le pedigree de l'objet, et puis la date de la transaction, quel est le montant de la transaction, sachant qu'il y a aussi des règles ensuite sur le blanchiment d'argent qui aujourd'hui, pour certaines transactions, ne permettent pas la transaction cash à partir d'un certain montant. Donc voilà, un certain nombre d'informations à garder, un registre qui doit être gardé 30 ans. Souvent les marchands sont un peu sceptiques, nous disent non mais cette vente a eu lieu il y a 5 ans. Bon, la loi dit qu'il faut garder toute la documentation pendant 30 ans et pouvoir la donner au service spécialisé en temps raisonnable. Donc raisonnable, ce n'est pas un an après, parce qu'on a des procédures qui... On essaie d'être gentil, on se dit les choses vont se mettre en place petit à petit. Et puis voilà, un marchand qui ne nous fournit pas tout de suite, on va lui donner un délai supplémentaire, et puis ça prolonge un peu la procédure.
Alors on rappelle peut-être juste une chose, en fait, il faut, la LTBC dit une chose, il faut prouver, il faut que le marchand puisse prouver que les objets acquis se trouvaient dans une ancienne collection hors du pays avant 2005, ou alors qu'il puisse démontrer que ces objets qu'il possède n'ont pas été volés ou exportés illicitement après 2005. C'est ça, hein ?
Oui.
Voilà. Et du coup, ça pose la question des ports francs. On va l'aborder brièvement, mais certains marchands ont une collection assez importante, acquise, parfois héritée, acquise de longue date, collection qui dort dans des ports francs, notamment celui de Genève, dont les objets n'ont pas une traçabilité, n'ont pas du tout de traçabilité parfois. Et ces objets, tant qu'ils dorment au port franc, ne posent pas de problème. Le jour où ils sortent des ports francs, ils sont soumis à la LTBC. Du coup, qu'est-ce qu'il va advenir en fait de ces objets finalement ?
Alors il y a plusieurs cas de ce type qui ont notamment récemment défrayé la chronique. On citera le cas d'un sarcophage. Enfin voilà, tout le monde pourra se renseigner en googlant.
D'un sarcophage en marbre blanc pesant 3 tonnes qui a été découvert sous une couverture dans les ports francs de Genève par des douaniers qui avaient été bien renseignés.
Absolument. Avec un dépositaire qui avait dit « il n'y a plus rien dans ce local, rien d'intéressant ». Voilà, alors tout est relatif, mais à mon sens, c'est très intéressant. Enfin bref, ce genre de cas, les ports francs, c'est un cas particulier, et ça fait toujours un peu rêver, et puis c'est sujet à plein de fantasmes. Mais en gros, effectivement, dans les ports francs en Suisse, principalement Genève, énormément de biens culturels sont entreposés. Il faut voir ça pas uniquement comme biens archéologiques, mais des biens culturels de manière large, donc des tableaux, tout type de biens culturels. Pour ce qui est des biens archéologiques, effectivement, depuis l'entrée en vigueur de la loi, par un complément loi sur les douanes, impose une déclaration de tous les biens archéologiques qui entrent au port franc. Donc tous ces biens archéologiques, normalement, ont un certificat d'entreposage, on sait quand ils ont été entreposés, d'où ils proviennent, qui en est propriétaire, etc. Donc en principe, ça c'est requis. Sinon, évidemment, il y a une fausse déclaration. Ensuite, pour ceux qui étaient déjà là, ils sont soumis à un devoir d'être inventoriés. Donc normalement, toutes les personnes qui détiennent des biens culturels dans les ports francs doivent tenir un inventaire qui doit être disponible en cas de contrôle par les services douaniers. Et les douanes procèdent à ces contrôles d'inventaire. Dans le cas de ces contrôles d'inventaire, parfois, effectivement, il y a des mauvaises surprises. Mais jusqu'à maintenant, les choses sont plus ou moins tenues en règle, sauf exception lors d'export, effectivement, lors de sortie, disons, de ports francs qui sont assimilés à des importations selon la loi. Et donc, il y a un assujettissement à la loi sur le transfert des biens culturels. Dans ces cas-là, on arrive parfois, on est face à des objets dont la provenance est douteuse, voire illégale. Là, s'enclenche toute une procédure et des recherches. Et puis, malheureusement, la tendance auprès des marchands d'art ou des propriétaires ou des collectionneurs, c'est de dire « nous n'avons aucun document, mais ce bien appartenait à ma grande-tante dans les années 40 ». Voilà. Donc avant forcément la convention de l'UNESCO, et puis ils l'ont depuis longtemps, et veulent être de bonne foi propriétaires, etc. Voilà. Autour des biens culturels s'enclenche en général un argumentaire qui peut être à la fois éthique, déontologique, et puis basé sur la documentation qu'on peut fournir aujourd'hui. Et moi, la question que je pose toujours, c'est est-ce qu'on peut, 11 ans après l'entrée en vigueur d'une loi dont on a suffisamment parlé, dont tous les professionnels ont connaissance, arriver devant le ministère public et dire « je n'ai aucun document, aucune information, c'est dans ma famille depuis 50 ans ».
C'est toute la difficulté en fait, de l'application de la LTBC qui pose des problèmes quand même aux marchands, qui ne peuvent pas prouver l'origine de biens acquis il y a de très longues années en arrière. C'est aussi un problème pour les musées. Marc-Antoine Kayser, c'est aussi un problème pour les musées qui doivent réaliser un inventaire de leurs pièces pour prouver que ces pièces sont propres. Donc je ne sais pas si vous-même vous devez faire ce genre d'inventaire puisque vous n'avez pas vraiment d'objets, vous êtes plutôt dans les objets régionaux, donc vous n'avez peut-être pas ce souci-là, mais c'est un vrai souci pour les musées aujourd'hui. Et comment on procède en fait pour tracer des objets dont on a très peu d'éléments en fait?
Bon, l'inventaire est une obligation muséale déjà, hein, quels que soient les objets dont on parle, mais je ne sais pas très bien comment. En fait, c'est pas un souci. Et là, je serais assez radical. Pour moi, un objet dont on n'a pas la provenance n'a aucun intérêt archéologique. Alors, comme archéologue, je considère que ça n'a rien à faire dans un musée d'archéologie. Après, c'est des questions de conception de ce que c'est que l'archéologie. C'est-à-dire qu'une antiquité qui n'a pas de, ou pour lesquelles on n'a pas d'informations sur la provenance, c'est un bien culturel. Ok, ça reste un bien culturel, c'est un objet d'art ou quelque chose comme ça. C'est un objet d'art d'une part, puis ensuite c'est rien d'autre. Alors pour un archéologue, c'est un objet qui est totalement dénué d'intérêt. Donc, si vous voulez, le fait de devoir tracer les objets pour un archéologue, c'est à la base de la conception disciplinaire. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à dire d'où ça vient, pas du tout dire d'où ça vient. Mais vous êtes en train de faire un truc qui n'a rien à voir avec votre métier et qui n'a rien à voir avec votre mission. Donc ces trucs n'ont rien à foutre dans les musées, donc ce n'est pas un problème. Et ça d'autant plus que même dans le cas, nous avons d'anciennes collections au musée où on a des informations qui sont, on va dire, fragmentaires, où on n'a évidemment pas d'idée du contexte. Enfin, je veux dire, je prends, une hydrie apulienne qui a été offerte par un peintre neuchâtelois en 1860 à la ville de Neuchâtel, qui se retrouve aujourd'hui dans nos collections. Alors, on ne sait pas d'où ce peintre neuchâtelois, il a dû l'acheter, il était quelque part en Italie, il était à Rome, il a fait le grand tour, ou je ne sais pas quoi, et il a acheté un truc là-bas. Alors, on ne sait pas de quelle tombe ça vient, là-dessus on est bien d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que, il y a une autre forme de contextualisation qui, là, je ne sais pas, enfin, je me demande comment Audrey peut qualifier ce que je vais raconter, mais c'est une autre forme de contextualisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas la contextualisation archéologique, mais on a la contextualisation du point de vue de l'histoire des collections. C'est-à-dire, ce qui va nous intéresser, c'est qui était ce peintre.
Mais tout musée peut prendre ce prétexte. Quel effet ça a eu, finalement.
Disons, c'est ça qui donne de l'intérêt à ces objets. C'est-à-dire qu'autrement, ça n'a aucun intérêt. Donc, de toute manière, ce qui est une obligation pour un marchand, est précisément le cœur de l'intérêt pour les archéologues.
Donc là, vous êtes en train de prêcher pour votre paroisse le musée archéologique, mais tous les musées ne sont pas des musées archéologiques, des musées qui présentent des pièces d'antiquité, on en a beaucoup dans le monde, à travers le monde. Le musée d'art et d'histoire à Genève a entamé ce travail de recherche d'origine de nombreuses pièces. Donc pour vous, ces musées se trompent. Ces musées sont dans le faux.
J'ai des opinions. Je veux faire la leçon à personne. Je considère effectivement que ces musées font quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec l'archéologie, du moins pas avec l'archéologie telle que je la conçois. Ça, c'est un élément. Et l'autre élément, c'est que j'ai le sentiment que l'actualité, on va dire tous les débats qu'il y a aujourd'hui sur la question du transfert des biens culturels, sur la restitution aussi des anciens pillages, me donne à penser que, on va dire, cette manière de voir les antiquités, elle arrive, c'est la fin. Enfin, je pense que la prochaine génération, on va dire la génération des étudiants ici, ils verront la fin du marché des antiquités, ils verront la fin des musées d'antiquités, ça n'existera plus. Les choses vont tellement vite, elles ont tellement bougé ces deux dernières décennies, que j'ai le sentiment que ça va complètement délégitimer.
Donc le musée du Louvre va fermer, d'après vous ?
Il va devoir se réinventer. Il va devoir se réinventer.
Alors rendez-vous dans 20 ans, dans 30 ans, pour voir ce qu'il en est de ces grands musées. Audrey Doyen, c'est vrai qu'entre marchands et musées, on se bat toujours pour savoir en fait que faire de ces pièces qui sont issues de trafic, qui sont soit déjà sur le marché, soit qui sont déjà sur le marché. Les marchands estiment qu'il faut à tout prix sauver ces pièces parce qu'elles seraient détruites sur place, en fait, dans le pays d'origine, qui parfois est en plein conflit. Et d'autres, d'autres, les musées estiment au contraire que notre rôle n'est pas d'encourager le trafic. Comment vous voyez les choses ? Est-ce que l'acquéreur ne doit pas jouer au sauveur, c'est ça ?
Oui. Donc, en fait, oui, pour revenir sur cette dichotomie entre le marchand qui voudrait sauver, ou le collectionneur qui voudrait sauver les pièces, c'est vrai que moi, je rencontre beaucoup de collectionneurs. Et par exemple, là, on est dans l'actualité du marché de l'art en ce moment. Je ne sais pas si vous savez, il y a la Biennale des antiquaires à Paris qui a ouvert la semaine dernière. Aujourd'hui, il y a un symposium à l'École du Louvre sur le rôle des musées pour le patrimoine dévasté. Donc, on est vraiment dans cette actualité. Et la semaine dernière, il y avait une foire à Paris qui s'appelle le Parcours des Mondes et qui présente des objets d'art africains et océaniens, et il y a toujours des marchands et des cafés qui sont organisés, et là la thématique c'était sur la restauration des pièces. Et donc sur cette restauration des pièces, il y avait des restaurateurs, des collectionneurs qui venaient, et le débat a été orienté, et complètement tout le monde était d'accord, il y a un consensus sur le fait qu'il fallait absolument sortir. Alors évidemment, le débat s'est tout de suite tourné sur un objet particulier, qui est la statue Nok du Nigeria, donc qui est pour le coup de l'archéologie africaine, et qui sont des pièces qui sont très sensibles. Il y en a deux qui sont exposées au pavillon des sessions au musée du Louvre. Il y a eu tout un débat sur le fait que ces pièces devaient être rendues au Nigeria, et Jacques Chirac a trouvé un compromis en disant que ces pièces étaient en dépôt au Louvre, prêté par le Nigeria. Donc voilà, on était dans ce débat-là, et les collectionneurs autour de la table étaient intimement persuadés de sauver ces pièces en les achetant et en les faisant restaurer, parce qu'il y a des restaurations privées qui ont lieu, et en les faisant restaurer. Et après, de l'autre côté, évidemment, on trouve des positionnements de conservateurs de musées avec des choses plus compliquées où il faudrait rendre les pièces, etc. Mais j'aimerais juste nuancer un tout petit peu cette dichotomie en disant déjà que il y a beaucoup de scientifiques ou de conservateurs aussi de musées, ou bien dans l'histoire du musée, on trouve quand même une pensée qui était quand même de sauver les objets, d'aller collecter des objets, notamment dans le cas des objets ethnographiques, d'aller les collecter sur place pour les sauver d'une destruction à laquelle ils étaient promis à cause, par exemple, de la colonisation ou des changements qui était en cours dans la région. Donc il y avait déjà cette pensée-là dans la fondation des musées, dans le fait de conserver des pièces. C'était quand même les sauver de leur pays, où ils allaient disparaître. Et du côté des collectionneurs, on trouve quand même des collectionneurs qui ne veulent pas jouer au sauveur. Donc il y a quand même une dichotomie à nuancer de ce côté-là. Mm-hmm.
Maintenant, peut-être parlons des pistes qui se dessinent pour améliorer les choses, pour casser le marché noir, pour éviter, pour lutter en fait contre le trafic de biens culturels. Quelles sont les pistes qui existent ? Est-ce que le fait de de trouver, de mettre en place des conventions avec certains pays qui peuvent, qui l'acceptent, pour prêter des œuvres à des musées, peut enrayer, disons, aider à combattre le trafic de biens culturels. Karine Simoes.
Alors, moi, je séparerais toujours de manière assez, peu nuancée, disons, le rôle des musées et puis les biens qui se trouvent dans les musées, des biens qui sont en main des collectionneurs et des marchands d'art. Voilà. Alors, des gens mal intentionnés, il peut y en avoir partout. On ne va pas faire de stigmatisation ou de clichés. Mais pour qu'il existe un marché d'art, il faut qu'il y ait une offre et il faut qu'il y ait une demande. Et aujourd'hui, il y a une très forte demande et une offre qui est plus ou moins proportionnelle parce que les ventes continuent d'être conclues et il y a toujours un foisonnement d'objets archéologiques sur le marché, voilà, dont la provenance parfois est établie, parfois pas. Donc voilà. Et puis, je pense que c'est plutôt dans ce secteur-là qu'il y a du marché noir et qu'on peut, entre guillemets, agir en termes de lutte contre le trafic illicite. Et puis après, ce qu'il y a comme échange culturel ou comme acquisition par des musées, etc., je le mettrais dans une autre catégorie avec d'autres règles qui vont avec. Et je ne l'entends pas vraiment comme faisant partie du marché de l'art, dans la mesure où le rôle des musées est encore celui qu'il est et est respecté. Voilà.
Alors, disons, pour lutter contre le trafic qui intéresse les oui. marchands et les collectionneurs, quelles voilà, sont les pistes prévues pour améliorer aussi la LTBC ?
La grande piste, c'est la législation, et une législation qui pénalise évidemment certains actes, parce que sans sanction pénale, évidemment, il n'y a pas forcément de changement de comportement. Grâce à soi, on voit les choses changer. Dans le cadre du commerce, il y a ce devoir de diligence, et puis il faut croire qu'il est contraignant si on s'en réfère, par exemple, à la Foire internationale d'archéologie qui a lieu chaque année à Bâle, que vous connaissez peut-être, et qui apparemment a annoncé déménager, ne plus avoir lieu dorénavant en Suisse, mais aux États-Unis ou ailleurs. Voilà. Donc on se pose aussi la question pourquoi ce déménagement ? Est-ce que justement ce qui est requis par la loi suisse est trop transparent ou trop pénible à respecter ou, voilà. Bon, nous, c'est un soulagement parce qu'évidemment, ça nous posait beaucoup de soucis chaque année de voir circuler un certain nombre d'objets et puis d'être soumis à une certaine pression internationale vu la nature des objets qui circulaient parfois. Voilà, alors le devoir de diligence est une mesure, la sensibilisation aussi auprès du public, parce que comme vous disiez très bien, Madame Doyen, tout à l'heure, il y a évidemment les collectionneurs avertis, les professionnels, mais aussi un simple touriste peut être amené à avoir envie d'acquérir un bien dans tel ou tel pays et de le ramener en Suisse, et c'est pas forcément légal, quand bien même il l'aura acheté auprès d'un marchand d'art qui peut avoir l'air sérieux ou réputé. Donc il y a cette sensibilisation qui est faite, et puis moi je pense qu'après il y a aussi une conscience collective, et je compare souvent ça avec par exemple tout ce qui s'est fait autour de l'ivoire, ou autour des diamants, ou autour de la fourrure, où petit à petit on a mis une législation qui est très comparable à celle qu'on a mis en place pour les biens culturels. Et puis l'idée
sensibiliser, c'est ça, il faut encore plus sensibiliser.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, ce que je voulais dire par offre et demande tout à l'heure aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore sexy et dans l'air du temps et tendance d'acheter un bien culturel et de le placer sur sa table du salon ou sur sa cheminée si on en a une. Et cette vision-là de l'acquisition du bien culturel, en tout cas pour ce qui est des biens archéologiques, doit changer. Et c'est ce qui limitera peut-être la profusion des petits objets sur le marché, parce que c'est ça aussi aujourd'hui, c'est que c'est pas seulement des sarcophages à 3 millions qui circulent. Mmh. Alors je sais pas comment on peut chiffrer un tel montant pour un objet, mais pourquoi pas, peut-être sur son poids. mais le marché noir, c'est aussi beaucoup de petits objets, de petites choses qui se vendent 2 ou 3 000 francs pour des collectionneurs, voilà, qui pour eux, c'est une...
Voilà, et pour ces petits objets, c'est difficile de
ouais, c'est dur à quantifier,
de faire des contrôles parce que on se focalise surtout sur les pièces importantes, oui. C'est ça, hein, et moins sur les petites pièces, les multiples, comme oui. on les appelle, qui sont qui passent partout.
Mais qui alimentent vraiment le marché noir aujourd'hui. Ouais. Ouais.
Oui. Marc-Antoine Kayser.
Oui,
ben Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça?
Oui, mais je ne sais pas, j'irai plus loin. C'est-à-dire que oui. Moi j'ai l'impression qu'on vit sur une ambiguïté et j'ai le sentiment que pour tuer le marché illégal, il faudra simplement tuer le marché légal. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. C'est-à-dire que on fait des distinguos juridiques pour dire ça c'est légal, ça c'est illégal. Mais dans le fond, les enjeux qui sont mobilisés sont des enjeux de principe où il est assez hypocrite d'élaborer des distinctions. Simplement, si on n'en est pas là, c'est parce qu'on veut continuer à avoir un marché légal et on veut continuer à considérer que ce sont des biens qui peuvent s'acquérir, qui peuvent se vendre. Et je crois que c'est là qu'il doit y avoir un changement, et c'est là que j'ai la conviction qu'il y aura un changement. Madame Simoes parlait de diamants ou de fourrures. Vraiment, Laurent Flutsch, donc, qui a écrit cet ouvrage avec Didier Fontana, je ne me souviens plus le titre, mais un petit livre rouge sur le pillage archéologique, il disait justement, il y a un jour où ce sera la méga honte d'avoir un vase grec chez soi. Ce sera comme recevoir les gens avec une dépouille de lion ou après avoir tué un éléphant. Et je crois que ce jour, enfin toute proportion gardée, il est proche. Les choses changent. Le secret bancaire s'est effondré quand même finalement assez rapidement. Et je crois qu'il faut qu'on se prépare à la fin du marché des antiquités. En Suisse, évidemment, il y a pas mal de gens qui sont directement concernés. Mais il y a encore plein d'autres manières de faire de l'argent. Et les vrais amateurs, ben, il faudra qu'ils trouvent... parce que là-dedans, il y a plein de gens qui sont de bonne foi, il y a plein de gens tout à fait sympathiques, mais tant pis, qui développent, leur passion autrement, ou qui deviennent des professionnels.
On sent aussi que certaines grandes maisons de vente aux enchères sont beaucoup plus frileuses. Certaines abandonnent certaines catégories de vente d'antiquités, hein, parce que c'est trop risqué. Donc on sent effectivement qu'il y a une prise de conscience, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais on sent qu'il y a un frémissement. Je crois que, je ne sais pas si vous voulez encore intervenir, mais l'heure tourne. On a déjà dépassé le temps. Alors, si vous voulez peut-être ajouter un mot, pas de problème. Sinon, je donne la parole au public pour que vous puissiez répondre aux questions. Je ne sais pas si quelqu'un... Voilà, si vous pouvez peut-être passer le micro. Je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question par rapport à rebondir, en fait, sur un élément qui a été évoqué.
Juste, je n'ai pas une grande connaissance de ce sujet, mais vous avez parlé qu'il y a eu donc récemment le développement, en fait, d'une législation. Ça a été intéressant pour moi la remarque en fait du professeur Kayser de la personne qui est venue se présenter à la réception. Est-ce qu'il y a enfin désormais ensuite un développement en fait de la procédure sur comment traiter donc en fait comment médier à la récupération des objets culturels d'un statut on va dire illégal vers un statut légal? Comme par exemple l'exemple que le professeur Kayser a donné. Est-ce qu'il y a un développement législatif de ce point de vue-là? Vous avez parlé surtout d'une pénalisation, en fait, ce qui concerne plutôt un marché, on va dire, des marchands d'art, donc en main privée. Est-ce qu'il y a une espèce de développement, en tout cas, d'une procédure systématique pour la reprise de ces objets?
Alors, on ne fait pas d'un bien illégal un bien légal sur le marché. On peut établir éventuellement que le bien circule depuis un certain temps ou a appartenu à certaines collections depuis un certain nombre d'années, ce qui peut faire que sa provenance... éprouver et puis son transfert sur le marché légal, dirons-nous, enfin, d'un point de vue juridique, dans la mesure où la loi, en principe, n'est pas rétroactive. Maintenant, pour quelqu'un qui posséderait un bien, je ne sais pas, par héritage, ou qui a une fois acheté ça et qui aujourd'hui se rend compte que l'éthique autour de ça a changé, la loi aussi a changé, et qui ne se sent pas confortable de continuer à posséder un tel bien, peut alors essayer de se retourner vers un musée pour voir si effectivement il y a un intérêt autour de l'objet. Les musées aujourd'hui, en général, respectant le code de déontologie et étant effectivement curieux et ayant besoin, disons, de connaître la provenance et puis l'histoire autour de l'objet, sinon peut-être il n'y a pas d'intérêt scientifique autour de ça. L'autre possibilité serait de consulter l'Office fédéral de la culture, et puis nous, on est toujours ouverts à organiser, par exemple, une restitution volontaire. Ça veut dire, si on arrive à déterminer d'où l'objet provient, de contacter les autorités du pays en question, et puis de procéder à une remise de l'objet à l'État d'origine, par exemple. On a eu plusieurs cas comme ça, hein, de collectionneurs même qui voulaient rester anonymes et qui sont passés par le biais d'un avocat ou d'une représentation justement muséale ou autre, et qui nous ont remis des objets qu'on a restitués à l'état d'origine. C'est une possibilité. Mais il n'y a pas dans la loi une procédure qui prévoit ces situations. Enfin, la loi, en général, règle des cas litigieux. Donc une restitution volontaire, par définition, elle n'est pas forcément litigieuse, même si le bien... peut-être illégal si on avait voulu le transférer sur le marché.
Une autre question, monsieur ?
Quand je vois une sculpture d'un saint ou d'une sainte, ou ces supports de cierge dans un magasin d'antiquités, je me demande toujours comment ces saints ont fait pour arriver dans ce magasin.
C'est une question à poser au marchand, certainement. En lui demandant l'origine, les documents d'origine de la pièce. Je ne sais pas si vous voulez réagir.
C'est pour ça que je faisais une distinction entre les objets archéologiques et les biens culturels. C'est-à-dire qu'un bien culturel peut parfaitement être un objet qui se vend. Enfin, je veux dire, si on va dans les galeries d'art, il y a des artistes qui font des œuvres et ils les vendent. Très bien. Je ne sais pas exactement comment ça se passe avec les biens d'église, mais la paroisse, je pense, est libre d'en faire ce qu'elle veut, il me semble. Donc il est beaucoup de biens d'église ont été pillés, ça c'est sûr, on a même des exemples ici dans la région, mais il est possible quand même qu'ils aient été vendus légalement. Le fait d'arracher une statue de saint à son lieu d'origine, si tant est qu'il existe, à mon sens, n'est pas problématique comme piller une tombe, sortir un dépôt, une offrande d'une tombe pour la mettre sur le marché, parce qu'on détruit un contexte archéologique, on doit détruire la tombe, on doit détruire une réalité archéologique pour pouvoir mettre un objet en vente, pour pouvoir faire circuler un objet. Donc on est dans quelque chose où, on va dire, ça pose des questions éthiques qui sont certes présentes, mais qui sont différentes, il me semble. Enfin, je sais pas où.
Oui, en fait, ce que je peux ajouter, c'est que, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, le problème de ce marché, c'est que une grosse partie du marché est licite, même peut-être la plus grosse partie est licite. Donc, en fait, il existe un marché des biens médiévaux ou de l'art sacré chrétien. Donc, on a des catalogues de vente qui remontent au 19e. Donc, il y a eu un marché qui était tout à fait... Enfin, voilà, avec des biens qui étaient vendus par l'Église. Il y a eu tout un marché légal. Donc, après, il y a cette possibilité. Et il y a évidemment la possibilité que le bien ait été arraché dans une église. Voilà. Mais je pense que ça serait très intéressant d'entrer dans le magasin et d'aller demander aux marchands ça peut être, enfin, moi je trouverais ça très intéressant.
Souvent le marchand présente comme preuve d'origine un document d'achat à un précédent acquéreur et s'appuie là-dessus pour dire voyez, c'est légal, je l'ai acquis de monsieur un tel, mais bon, c'est pas suffisant en fait. C'est toute l'ambiguïté de la chose.
Moi, j'ai juste une remarque par rapport à tout ce qui a été évoqué ce soir. C'est qu'on parle beaucoup de Syrie, d'Irak et autre chose, mais enfin, le pillage, il a aussi lieu juste à côté de chez nous. Hein. Donc, il y a énormément d'objets, et parmi tout ce trafic qui existe, il y a aussi beaucoup d'objets qui ont été simplement prélevés par quelques champignonneurs du dimanche qui, au lieu de prendre des champignons, vont avec un appareil, un détecteur de métal, et puis vont relever tout ce qu'ils trouvent dans le sol. Et puis ça fait une part non négligeable quand même de toute cette partie, je dirais, grise qui circule parfois sur Internet, où on peut tout à fait acquérir peut-être des pièces romaines, des petits objets qui... C'est toujours des petits éléments qui peut-être ne valent pas de faire un musée pour les mettre, mais enfin, qui, toujours est-il, comme disait Marc-Antoine, si on enlève, on prélève cet objet du sol, on perd tout son contexte et tout son intérêt. Donc c'est surtout ce pillage-là aussi qui est très néfaste actuellement à l'archéologie, et pas seulement le trafic illicite d'objets plus ou moins anciens qui ont été sortis, on ne sait pas trop comment, parce que ça c'est passé. Mais ce qui se passe encore actuellement, c'est-à-dire le pillage systématique de soulever tout ce qu'il y a dans le sol avant les archéologues, ça c'est quelque chose qui est inadmissible, et ça se passe partout dans le monde. Ce n'est pas seulement en Irak, pas seulement en Syrie.
Marc-Antoine ?
Ouais, effectivement, et tu fais bien d'en parler. Parce qu'évidemment, on a des instruments légaux pour ce qui s'appelle précisément le transfert des biens culturels, mais il y a évidemment tout ce qui se passe en Suisse. Et en fait, il y a un truc un peu étrange, c'est que l'existence d'un marché ou la tolérance vis-à-vis d'un marché fait qu'il peut y avoir des choses qui sont clairement illégales chez nous, qui peuvent avoir lieu parce qu'en fait... c'est tellement difficile de le pister que ça développe une certaine tolérance. Et tu parles de petits objets qui souvent n'ont pas un intérêt, on va dire muséologique, pour ne pas parler scientifique, très, très fort. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il s'agit là d'un phénomène qui a une ampleur assez extraordinaire, et surtout des objets qui se vendent, mais pour rien du tout. Enfin, si vous allez sur eBay, vous voyez des choses qui sont vendus à des prix mais dérisoires. Enfin, je veux dire, vous payez à peine au resto avec ça, quoi.
Vous parlez de quel type d'objet ? Alors, des objets archéologiques régionaux, c'est ça ?
Voilà, une monnaie romaine, une fibule ou un fragment de fibule, une épingle cassée. Enfin, comme on en trouve sur les sites archéologiques, que les gens vont détruire des sites archéologiques pour un hobby qui leur fait gagner très très peu d'argent. Donc il y a une espèce d'inconscience, enfin il y a quelque chose de gravement criminel, mais c'est surtout une absurdité, une bêtise criminelle. Et le problème, c'est que ces gens-là, on n'a pas vraiment le moyen de les atteindre, et puis surtout l'existence d'un marché légal leur donne l'illusion que ce qu'ils font, oui bon, et alors ?
On a une visibilité, Karine Simoes, sur ce trafic, alors... régional d'objets déterrés sur nos terres.
Oui, si je peux compléter justement, ce que vous avez dit est totalement correct et malheureusement un peu dramatique, mais on a très rapidement, après l'entrée en vigueur de la loi, négocié des accords avec les maisons de vente aux enchères en ligne, notamment eBay, avec qui on est arrivé à ce qu'on appelle un Memorandum of Understanding, qui prévoit l'interdiction pure de vente d'objets archéologiques sur leur plateforme. Donc les gens essayent quand même, créent le profil, mettent des photos, etc. Mais on essaye de regarder régulièrement s'il y a des annonces de ce type qui paraissent, et eBay s'est engagé à les supprimer pur et simplement. Enfin, voilà.
Pour la Suisse.
Pour la Suisse.
Voilà, pas pour, voilà, si on va en France, si on se... On va sur le site eBay français. Oui.
Et puis ces accords, évidemment, ce sont des accords sur des bases volontaires qui ne sont pas vraiment juridiquement contraignants, mais c'est un engagement qui est tenu et qui fonctionne très très bien. Et en fait, le message que j'essaie de faire passer, c'est que finalement, quand un État s'engage, le problème est déplacé, se déplace dans un autre État, c'est ça que j'entends. Et donc, de faire passer le message, on essaie de promouvoir ce travail qu'on a fait, qui fonctionne très très bien, pour que d'autres États le prennent aussi comme exemple, et puis l'appliquent enfin, également chez eux, enfin, fassent mm-hmm. d'autres accords avec eBay, par exemple.
Voilà, mais que représente en fait le pillage de biens, d'objets antiques, du cru ?
En termes de quantité, ça, je pourrais pas vous dire, mais... Franchement, chaque mois, je pense que quelqu'un essaye de mettre des biens archéologiques trouvés dans un jardin ou dans une campagne suisse sur Internet. Ça, c'est clair. Et parfois, vraiment au mépris total de la loi et dans l'ignorance totale, parce que parfois, il y a même le lieu de la fouille. Et puis, ils nous indiquent même comment ils l'ont trouvé. Et puis, enfin, voilà. Donc, oui.
D'accord. Des gens, des gens peuvent...
En termes de quantité, j'ai aucune idée. Mais...
Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Si vous n'avez pas d'autres questions, peut-être qu'on peut rebondir sur les ports francs. si ça vous convient. On en est où aujourd'hui avec les ports francs et avec cette question de surveillance des biens entreposés aux ports francs en Suisse ?
Alors, donc il y a une réglementation qui demande une annonce du bien à l'entrée et à la sortie. Et puis l'annonce, c'est comme une annonce douanière, doit comporter le type d'objet, la provenance, le propriétaire, etc. Un certain nombre d'informations qui déjà peut mettre mal à l'aise quelqu'un de mal intentionné ou bien voilà, un objet qui serait douteux aurait du mal, disons, à être entreposé paisiblement dans ces ports francs. Ensuite, il faut dire que, par exemple, pour le port franc le plus sensible, qui est celui de Genève, il y a une prise de conscience au niveau cantonal qui a eu lieu. Vous avez peut-être lu aussi dans la presse que le directeur et le président sont en train de mettre en place tout un système de contrôle qui va bien au-delà de ce que demande la législation. Et pour nous, enfin, nous sommes ravis. Enfin, c'est fait d'un point de vue privé, mais je trouve le système, en tout cas, on a totalement... adhérer enfin, à la proposition qui est de contrôler systématiquement à ce moment-là. C'est pas comme la douane qui fait parfois des contrôles, disons, par échantillonnage. Voilà. Là, pour toute annonce, enfin, maintenant on sait ce qu'il y a dans les ports francs puisqu'on a les inventaires et on a toutes les fiches d'entreposage. Donc pour chaque entrée ou sortie de biens culturels, tout va être passé au peigne fin par une société mandaté par la société des ports francs, parce que les ports francs, il y a une partie publique et une partie privée, et donc la partie privée qui exploite met en place ce système-là. Et puis, eux, ce qu'ils veulent, évidemment, c'est d'abord lutter contre le trafic illicite, mais éviter les scandales, puisque les scandales sont dommageables aussi pour les affaires. Évidemment, il y a toujours un intérêt pécunier derrière, mais en l'occurrence, moi, il me va très bien dans ce cas de figure. Et donc, ce contrôle systématique... va probablement faire émerger encore quelques cas de biens justement qui dorment depuis un certain nombre d'années, soit, et puis on aura un certain nombre d'années pour rendre, disons, le contenu des ports francs un peu transparent. Mais voilà, c'est la situation actuelle, et puis on sera encore occupé un certain nombre d'années là-autour. Mais ça va, à mon sens, c'est sur la bonne voie, et puis dans le bon sens.
Très bien.
Si je peux, oui, si je peux ajouter, je pense que ça va effectivement sur la bonne voie, puisque l'exploitant des ports francs a ouvert des ports francs à Singapour. Donc en fait, ça montre exactement ce que vous disiez tout à l'heure, que quand le problème se déplace ailleurs, mais en fait, c'est peut-être encourageant pour
la Suisse va devenir très propre, effectivement, va devenir un îlot de propreté.
Bon. Moi, je ne me gênerais pas de poser la question, j'avais encore à l'UNESCO à la fin du mois. Je vais parler de cette problématique des détecteurs de métaux, parce qu'elle est mondiale. Hein, je veux dire, d'autres pays, la Bulgarie ou l'Autriche ou autres, ont affaire à ce genre de problématique. Donc oui, il y a cette problématique. Oui, on dit vouloir lutter contre le trafic illicite, mais qu'est-ce qu'on prend comme mesure ? Comme vous disiez, quelles sont les solutions ? Qu'est-ce qu'on peut amener ? Qu'est-ce qu'on peut apporter ? On ne pourra jamais tout faire, mais il y a peut-être déjà certaines choses qu'on peut mettre en place. Est-ce qu'il y a une volonté de faire ça ? Donc,
c'est déjà enfin, là, des questions qu'on pourra poser à certains États, pourquoi pas faire une déclaration d'entente avec eBay ou autre. Et puis, par rapport aux ports francs, bah ouais, c'est intéressant de savoir finalement les ports francs qui sont ouverts ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place comme réglementation, comment vont-ils lutter contre le trafic illicite chez eux. Et puis, alors peut-être que ce sont des meilleures idées que nous, alors ce serait fantastique. Et puis, si ce n'est pas le cas, bah, peut-être il faudrait arrêter de pointer la Suisse du doigt comme un mauvais élève. Puisqu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus considérer la Suisse comme attractive au niveau du marché noir des biens culturels. On s'en réjouit, il y a encore du travail, mais on, voilà, on est sur la bonne voie, en tout cas, de ce côté-là.
Très bien, est-ce que vous avez... Oui, une autre question, monsieur ?
J'ai encore une remarque par rapport à la bonne voie, c'est que là, on parle effectivement de ce que fait la Suisse, qui va devenir de plus en plus propre. On a parlé au tout début que c'était effectivement... Il y avait deux... commerce avant qui étaient les armes et puis la drogue qui sont plus importants pour la police éventuellement pour s'en occuper. Il se trouvait qu'il y avait en fait un archéologue qui travaillait auprès de la Fête Paul et son poste n'a pas été renouvelé sous prétexte qu'effectivement l'archéologie n'était c'est plus juste. Un élément important. Donc voilà. Est-ce que véritablement la Suisse veut continuer comme ça ? Je trouve ça dommageable que sur 300 postes qui se trouvent à la police fédérale, un seul poste d'archéologue ait été supprimé et puis ne soit pas renouvelé.
C'est juste. Vous en savez plus à ce sujet ?
Non, bah j'ai aussi trouvé ça regrettable. Beaucoup de gens ont écrit, se sont plaints, demandé une reconsidération, une prolongation, un remplacement même partiel de ce poste. Nous, on est très embêtés parce qu'on collaborait étroitement avec cette personne très compétente. Et puis, c'était bien utile d'avoir un avis direct d'un expert en la matière. Maintenant, on continuera nos activités. On externalisera certains rapports ou demandes à l'extérieur. Et puis, après, la volonté, disons... Pour des gens qui ne sont pas forcément experts et qui ne comprennent pas vraiment les enjeux autour de l'archéologie, ils déplacent le problème. Par exemple, il est beaucoup plus facile de justifier un budget pour tout ce qui est lutte contre le financement du terrorisme. Alors parfois, pour avoir un point d'accroche et pour avoir plus de ressources, on dit oui, mais comme vous disiez, les biens culturels ne sont pas dangereux. Oh, mais alors s'ils font partie de la lutte, s'ils font partie du financement du terrorisme, là ça devient dangereux et là ça devient intéressant comme sujet. Et là ça touche d'autres entités, comme d'autres départements, le SECO, le secrétariat à l'économie, ou bien le département des affaires étrangères, ou bien ça peut être mis sur un podium au niveau consultation politique, etc. Donc voilà, il y a un autre ancrage, une autre volonté, une autre façon d'aborder le sujet. Et ils se sont expliqués comme ça, ils ont mis les moyens et les priorités ailleurs. Alors on fait avec, et puis nous, en tout cas à l'Office de la Culture, on aimerait bien avoir plus de ressources et plus de personnes impliquées dans ce problème-là, mais c'est pas prévu, c'est pas...
Donc c'est vous qui allez faire la police.
Voilà.
c'est très intéressant parce qu'en fait, vous avez combien d'inspecteurs pour aller contrôler les marchands, deux, trois
Alors chez nous, jury spécialisé, on est deux. Et puis chez Fête Paul, il y a encore une correspondante à mi-temps.
C'est-à-dire que vous êtes trois pour contrôler tous les marchands d'antiquités en Suisse ?
Oui, formellement oui. Maintenant, le réseau est plus large au niveau de l'administration fédérale, mais effectivement, vraiment expert dans le domaine et puis habilité de manière... Direct, oui.
Voilà. Mm-hmm. Est-ce que c'est pas ça finalement la faille aujourd'hui en Suisse ? On a une LTBC qui cadre bien les choses, mais pour la mettre en œuvre et contrôler, on est encore bien faible et on a besoin de moyens en fait, parce que vous avez peu de moyens humains. Les douanes aussi ont très peu de moyens humains. Ils sont, en tout cas, il y a 2 ans, ils étaient moins de 5. Douaniers à l'entrée des ports francs de Genève, par exemple, pour contrôler des tonnes de marchandises qui entrent et qui sortent chaque jour. Et au final, on a une très belle loi qu'on arrive difficilement à appliquer. Enfin, on arrive à l'appliquer, mais il est difficile de procéder au contrôle.
Peut-être qu'il y a effectivement un manque au niveau des ressources disponibles. C'est aussi une difficulté pour exercer correctement notre activité. Maintenant, on ne perd pas espoir et motivation, donc on poursuit. Après, la difficulté de l'exercice, c'est que vu qu'on ne peut pas tout faire, on doit systématiquement se poser des questions. Qu'est-ce qui est important au niveau politique? Qu'est-ce qui est important au niveau protection des biens culturels? Qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui doit être priorisé? Et puis, une brève analyse entre guillemets, du marché, par exemple, en Suisse, nous montre qu'il y a plein de marchands d'art qui font très bien leur travail et, donc, et qui ont peut-être renoncé au commerce des biens culturels. Et puis, ceux qui pourraient être mal intentionnés, c'est un peu toujours les mêmes. Donc, voilà, on ne tient pas de liste rouge et on ne donnera aucun nom. Mais voilà, ceux qui sont problématiques, en général, c'est toujours les mêmes noms et les mêmes réseaux qui reviennent. Les procureurs, en général, connaissent ces réseaux-là. Et puis ce n'est pas des gens qui aiment le patrimoine culturel. C'est des gens qui, évidemment, veulent faire de l'argent, font partie des réseaux de blanchiment d'argent et autres. Et donc, disons que pour agir sur ces réseaux-là, on n'a pas forcément besoin de 10 personnes de plus. Donc voilà. Après, je dirais, pour ce qui est sensibilisation, formation, et aussi communication autour de ces sujets-là, il faudrait effectivement être beaucoup plus. Ouais. Et pour des contrôles formels aussi, forcément. Ouais.
Très bien. Oui, monsieur.
Est-ce qu'il y a une réglementation de la profession de marchand d'art? Donc, est-ce qu'il y a un certain critère rempli, ou en tout cas, est-ce qu'il y a une espèce de surveillance fédérale de cette profession? Enfin, je pense par exemple à d'autres professions comme médecin ou architecte.
Non, alors il y a des règles qui sont celles du droit des sociétés de manière générale. Et puis ensuite, en tant que professionnel marchand d'art, il y a le devoir de respecter la diligence dans le commerce d'art ou dans les ventes aux enchères. Puis ça, c'est aussi la LTBC qui met en place.
Est-ce qu'il y a parmi vous, en fait, des marchands ce soir? Ou des collectionneurs? Non, d'accord. Bon, parce qu'il nous manquait justement à la table ce soir un marchand ou un collectionneur. Du coup, on aurait pu dialoguer un peu plus avec cette personne. Non. Donc personne, aucun d'entre vous n'a jamais acheté d'antiquité? Hérité? Vous en avez acheté?
Je veux dire, quand j'étais étudiant.
Enfin, oui, voilà, pas en dehors de votre.
Oui, j'ai acheté quelques monnaies, oui, à l'UBS. Vous allez à l'UBS, enfin je ne sais pas si ça existe encore ces trucs, mais il y avait une espèce de panier, puis on donne 10 francs, on peut acheter une monnaie, puis on est, enfin, oui. Non mais c'était des monnaies très moches, hein. Enfin, c'est ce que j'arrivais à me payer, mais oui, enfin, et je suis persuadé que dans la salle, les gens, ils ne veulent pas le dire, mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont des objets chez eux, enfin mes parents en ont, enfin... personne n'est obligé d'avouer, mais quand même, moi je n'arrive pas à croire que sur une trentaine de personnes, il n'y ait pas de gens qui aient des objets d'art, des antiquités chez eux, aussi minimes soient-elles. Et c'est justement là le problème.
C'est ça. Mais alors, du coup,
je précise que mes pièces de monnaie, depuis, je les ai offertes au musée d'art et d'histoire de la ville de Neuchâtel, qui a un cabinet de numismatique. Elles ont d'ailleurs été exposées dans avec les trucs, les nouveaux dons. Ils font ça régulièrement.
Magnifique. Peut-être juste, je vais peut-être revenir sur quelque chose qu'on a déjà abordé, mais pour bien comprendre, si on a un objet d'antiquité chez soi, sans avoir aucun document expliquant sa provenance, et qu'on souhaite le vendre à un collectionneur ou le mettre aux enchères, par exemple. Est-ce que c'est possible? Quel est l'avenir en fait de cet objet qui n'a pas de traçabilité finalement?
À mon sens, aujourd'hui, si on raisonne sur la base de ce qu'est la législation suisse, si on n'a aucune information sur un objet, normalement, aucun marchand n'acceptera de le revendre s'il fait bien son travail. parce que pour remplir le devoir de diligence et présumer, on parle bien d'objets archéologiques, hein, et présumer que cet objet ne vient ni d'une fouille illicite, n'a pas été exporté illicitement du pays d'origine ou n'a pas été volé, enfin voilà, bah, il faut quelque chose, enfin, il faut quelque chose de tangible, une information, quelque chose. Donc, à défaut, ce bien ne pourrait pas être transféré légalement en Suisse. Donc, il faudra aller le vendre à l'étranger.
On a la solution, merci beaucoup. Merci du conseil. Est-ce que ça vous inspire?
Oui. J'avais juste une question pour approfondir la pensée de Marc-Antoine Kayser, pardon.
Oui.
Quand vous parliez de cette disparition de ce trafic, quel serait, au fond, maintenant, pour éviter le trafic d'objets archéologiques, à l'inverse, comment on peut procéder alors pour étudier ces objets et pas se priver de nouvelles pièces ou de nouvelles découvertes qui viennent peut-être de ce trafic-là aussi. Il faudrait donc légaliser tout ça. Comment est-ce que vous voyez, disons, l'apport de nouvelles matières à étudier?
Ouais, je ne suis pas sûr de comprendre toutes les implications de votre question, mais disons que enfin, les objets qui circulent aujourd'hui ou qui pourraient circuler, ben, logiquement, s'ils peuvent plus vendre, il y a quand même un moment où les gens s'en débarrasseront dans les musées. Aujourd'hui, où leurs héritiers, enfin, il y a un moment où ces choses-là vont arriver dans les musées. C'est d'ailleurs le cas pour beaucoup d'antiquités régionales. Hein. Ces dernières années, nous, on a reçu environ 6000 objets au Laténium, qui sont des objets qui ont été constitués probablement au début du XXe siècle. Et les gens n'ont pas de raison de nous mentir, vu qu'ils sont en train de les offrir, enfin, vu qu'on ne les achète pas. En fait, le problème, c'est étudier ces choses-là. Ben, justement, à un moment donné, ça va arriver dans des collections publiques, j'imagine. Et ce qu'il y a, c'est que pour le reste, on fait de l'archéologie. Et on va, enfin, pour moi, c'est surtout histoire d'enlever la pression. C'est-à-dire que en archéologie, il y a un principe qui s'est quand même répandu depuis plus d'un demi-siècle. C'est l'idée qu'on ne fouille pas s'il n'y a pas de menace. Alors, c'est pas, hélas, pas toujours respecté, en particulier à l'étranger, en particulier par des archéologues. Enfin, ceux qui ne le respectent pas, c'est souvent des archéologues qui vont aller faire ça à l'étranger. Alors, j'en parlerai pas plus, mais vous pouvez voir où ça me conduit. L'objet est beaucoup mieux dans le sol que dans les collections, que ce soit des collections privées ou les collections des musées. Parce que ça survit, enfin, un objet qui a tenu 2000 ans, ou 1000 ans, ou 500 ans, ou 50 000 ans sous terre, on va dire physiquement, chimiquement, il est mieux là où il est que de l'arracher à ce milieu-là. Ça, c'est les principes de conservation préventive qui sont devenus évidents. Donc, on va l'exhumer dans le cadre, avec des problématiques scientifiques, quand on a les moyens aussi d'en assurer la sauvegarde à long terme. Alors, c'est un principe, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller déterrer des trucs si on n'a pas déjà prévu la suite. Donc, du coup, peut-être qu'il y aura moins de découvertes, mais il y aura en tout cas autant de recherches. C'est très bien d'avoir des découvertes, mais si vous n'arrivez pas à les assumer scientifiquement, ce qui est quand même très souvent le cas, ben disons que vous pouvez faire des belles photos, mais vous ne pouvez pas aller très loin. Et disons, quand on dit ça, enfin, si je dis ça, c'est pas un discours de principe, c'est des réalités auxquelles on est confronté. Acquérir un objet, c'est d'abord une responsabilité et ça a un coût. Alors, il faut être prêt à assumer le coût de l'entretien de ces objets, sans parler de leur entreposage, qui est quand même élevé. Donc, on n'a pas besoin de remplir nos dépôts. Enfin, je le dis, évidemment, nous, on a plus d'un demi-million d'objets. Donc, du coup, et beaucoup qui sont, on va dire, souffrants, enfin, qui sont des objets délicats, etc. Enfin, pas des sarcophages en marbre. Enfin, ça ne demande pas beaucoup. Enfin, ça, vous pouvez l'entreposer. Il est peu menacé, on va dire, par les éléments. Mais il y a des objets un peu plus fragiles, un peu plus problématiques. Et franchement, il y a bien assez à faire avec ce qu'on a déjà pour la recherche archéologique.
Je peux juste réagir sur la disparition du marché. Personnellement, j'y crois pas du tout. Dans un avenir proche, je pense qu'il est plus florissant que jamais. Alors peut-être qu'il atteint un pic pour redescendre ensuite. Mais il me semble que tout ce que peut véhiculer le fait d'avoir un objet sur sa cheminée ou dans son appartement aujourd'hui est extrêmement fort et encore extrêmement fort. J'espère que ça va devenir de l'ordre de la dépouille, enfin voilà, de l'ivoire ou du cadavre qu'on a dans son salon. Mais franchement, je ne pense pas, pas dans l'immédiat en tout cas. Et pour preuve, encore la semaine dernière, j'étais chez un marchand qui m'a dit. Texto, regarde ça, quelle belle première pièce pour ton appartement. Donc je pense qu'on est encore vraiment dans cette idée qu'il faut vraiment se demander qu'est-ce que ça signifie de vouloir mettre, de trouver ça sexy en fait, de mettre une statue Fang ou une statue Nok ou un vase grec sur sa cheminée, voilà, du signe de pouvoir, de richesse, de connaissance, etc. que ça signifie. Je pense que c'est encore très prégnant aujourd'hui et que peut-être lutter contre le marché illicite, ça passe par comprendre ce fonctionnement-là, comprendre qu'est-ce que les objets véhiculent comme signification, qu'est-ce qu'on projette dans ces objets, qu'est-ce qu'on essaye de montrer quand on expose ces objets dans son salon, pour essayer peut-être de lutter plutôt contre ça ou passer justement par une sensibilisation de ça.
Oui, il y a aussi des nouveaux acquéreurs, des nouveaux collectionneurs qu'on voit apparaître dans les pays du genre la Chine, les Émirats arabes unis, etc., qui collectionnent, qui sont au début en fait de leur collection. Et du coup, peut-être que dans les pays européens où on a davantage, enfin, je sais pas, je rentre peut-être là sur un chemin glissant, mais peut-être que le marché n'est pas encore, est loin de se tarir en fait, parce que les collectionneurs on a des gens maintenant qui s'intéressent à ces objets d'antiquité dans de nouveaux pays en fait.
Bon, c'est sûr que ma position est une position que j'espère performative. mais quand même, il y a des choses qui changent. Je reviens au bouquin de Laurent Flutte chez Didier Fontana. Aujourd'hui, le conseiller fédéral, ministre de la Culture, n'a plus de vase grec dans son bureau, contrairement à ce qui était le cas il y a quelques années. Donc, on va dire l'exemple qui vient d'en haut change. À mon avis, il y a quand même des choses qui changent. Alors, vous parlez de modifications à l'échelle planétaire. Alors, maintenant, ce que je crains, c'est qu'en fait, qu'on en arrive à que ma prévision se réalise, mais à l'échelle de, on va dire, 30, 40 ans, mais pour de mauvaises raisons. Parce qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces questions de restitution à la Chine. On a affaire aujourd'hui, c'est-à-dire que, on n'en a pas parlé ce soir, mais disons que le cœur de ce problème quand même remonte, on va dire, au colonialisme, remonte aux impérialismes, remonte aux fruits d'une attitude paternaliste de la part de pays occidentaux, où sont implantés tous les grands musées qui ont lancé un trend, ou qui se sont, on va dire, qui ont accompagné et qui ont apporté toute cette touche glamour à un intérêt qui a été développé par des particuliers dès la Renaissance. Bon, très bien. Maintenant, l'Europe n'est plus au centre du monde. Les États-Unis non plus. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui changent dans le monde, il y a des puissances émergentes où il y a du fric. Alors, vous parliez du marché à Singapour. Et il y a des exigences de la part de ces pays-là. Il y a des exigences de restitution. Et en fait, on assiste à une autre forme d'instrumentalisation politique de valeurs patrimoniales. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs patrimoniales. En tant qu'archéologue, on peut défendre des valeurs patrimoniales. Mais en fait, on se retrouve alliés objectifs avec des gouvernements souvent autocratiques, autoritaires, qui ont des moyens de faire pression sur les puissances occidentales. Alors quand on parle des collections du Louvre, le jour où la Chine vient, enfin où le Premier ministre chinois vient et dit au président de la République ça rien à foutre ici, je veux que vous me rendiez ça, ben disons, on peut toujours dire non mais c'était légal, c'était le pillage du palais machin en 1800. Ça convainc peu le Premier ministre chinois. Et le Premier ministre chinois, s'il dit « Je ne vous achète pas les 53 rafales que j'avais l'intention de vous acheter », il est sûr que le directeur du Louvre, M. Martinez, face à François Hollande, il se retrouve dans une situation où il n'a pas beaucoup de pouvoir. Donc il y a là une instrumentalisation politique, idéologique, identitaire, nationaliste, qui n'est pas plus belle que le colonialisme d'antan, l'impérialisme et tout ça, mais qui, de fait... crée une incertitude sur ce marché. Or, le marché de l'art, comme, enfin, on a eu des comparaisons avec le trafic d'armes et ces choses-là, mais si on parle du marché légal, qui est quand même assez important, c'est d'abord, pour tout ce qui a de la valeur, c'est d'abord un placement. Or, l'évolution dans le monde, le pouvoir de pays émergents comme la Chine, à mon sens, aura pour conséquence une incertitude sur le marché. Comment vous voulez investir ? Il faudrait être complètement crétin pour investir de l'argent dans des matériaux, typiquement les antiquités chinoises, qui pourraient vous être réclamés par des Chinois, aujourd'hui, demain, après-demain. Donc c'est un mauvais placement. Donc c'est, en définitive, une raison, on va dire, économique, politique, regrettable, qui risque d'avoir un impact sur cette question. Alors, là, moi, comment dire, j'ai pas de, enfin, j'ai évidemment pas de position. L'éthique, la déontologie est très loin de toutes ces préoccupations, mais c'est des réalités face auxquelles on doit faire face. Et je crois que nous, en tant que représentants du domaine de la culture, etc., on a d'abord un examen de conscience à faire. Aussi, pour pas être victime, pour être dans une meilleure position, pour réagir face aux pressions, il faut déjà aussi qu'on établisse des principes de base.
C'est très intéressant de parler justement des restitutions d'objets, hein, parce que c'est le but, une fois qu'on découvre qu'un objet est issu d'un pillage, l'idée c'est de le restituer à son pays d'origine. Je reprends l'exemple du sarcophage en marbre blanc de 3 tonnes qui dort encore au port franc, qui fait l'objet d'une procédure pénale. La Turquie le réclame. Ça pose la question, la restitution pose la question justement de ces pays. Restituer, est-ce que c'est pas prendre le risque de mettre en danger aussi des œuvres? C'est une question qui se pose quand on entre en matière, quand on entre en matière pour une restitution.
Spécialiste, je ne sais pas, mais oui, la question de la restitution, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'ouvrir ce chapitre à 7h30, mais oui, c'est effectivement un peu complexe. Il y a la question l'argument de est-ce que ces œuvres seront en sécurité, et il y a l'argument de la part des musées de le patrimoine est universel, donc en fait, il peut rester chez nous. Donc c'est aussi une autre question. Je ne sais pas si c'est vraiment si on peut ouvrir ce sujet-là maintenant, mais je n'ai pas de position sur cette question-là. Je pense que c'est un débat qui est extrêmement complexe, qui parle en plus de la signification du patrimoine pour les pays qui sont concernés, pour les populations locales. Là, par exemple, si ça vous intéresse, je peux vous aiguiller sur donc le symposium dont je parlais aujourd'hui qui a lieu au Louvre. Il y a un chercheur qui travaille sur ces questions de restitution qui s'appelle Johnny Maroun, qui est libanais, et qui traite justement de ces problèmes d'universalité des musées, du patrimoine, de conception du patrimoine, par exemple, pour les populations du Proche-Orient, dans notre cas, qui, pour certains, ne voient absolument aucun intérêt à ce que les objets reviennent chez eux, par exemple. Donc il y a toutes ces questions qui sont soulevées par les problèmes de la restitution.
Voilà, mais ça devient une question politique, hein, c'est ce que disait Marc-Antoine Kayser, en fait. Une question diplomatique, politique, dans certains cas.
et des enjeux diplomatiques, et économiques, diplomatiques. Je pense que l'art est au centre d'enjeux diplomatiques, politiques et économiques très importants. Ouais.
Bon, alors on ouvrira un autre débat sur ce point-là, un autre soir, si vous êtes d'accord, parce que c'est vrai que c'est un sujet extrêmement vaste qu'on a effleuré ce soir. Avec nos trois intervenants, je pense que c'est parti un petit peu dans tous les sens, mais j'espère que vous avez retiré en tout cas certains éléments et que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clore le débat.
Oui.
Oui.
Puisqu'on est là, on peut faire dans l'anecdote, peut-être pour terminer. Il y a eu une restitution récemment entre le canton de Saint-Gall et le canton de Zurich concernant des pillages qui ont été faits au XVIIIe siècle lors de guerres qui ont eu lieu entre les deux cantons. Donc, des éléments qui appartenaient à l'abbaye de Saint-Gall ont été restitués au canton de Saint-Gall par Zurich 200 ans après avoir séjourné dans la ville de Zurich. Donc, ça se passe même à l'intérieur de la Suisse, ce genre de choses.
Merci beaucoup pour
Merci
cet
beaucoup.
Exemple.
Alors, juste deux mots pour remercier nos intervenantes et nos intervenants, notre intervenant de ce soir. Je voudrais remercier Sophie Roselli pour avoir accepté la modération de cette discussion. On l'a contactée parce qu'en effet, elle est l'auteur, dans le cadre de son travail à la Tribune de Genève, de vastes enquêtes concernant les ports francs et aussi le trafic d'objets antiques, entre autres. Donc, si vous googlisez, comme on dit, son nom, Tribune de Genève, vous trouverez quelques articles sur Internet qui sont très, très intéressants. Voilà, je voudrais vous donner encore rendez-vous au 19 octobre pour un tout autre sujet. Quoique, on parlera de culture, encore une fois. On parlera des traditions urbaines. Et ce sera entre autres avec la professeure Hélène Hertz qui est ici présente ce soir. Donc retrouvez-la ainsi que d'autres intervenants le 19 octobre. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Je voudrais encore remercier Roland Hamsler pour la technique et aussi François Bourquin qui assure la mise en place de la salle. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée.